Conférence privée, Père Philippe, Saint-Jeudard, 24 octobre 1984.
Pour prendre un sujet qu'on pourra traiter comme ça pendant toute l'année, de temps en temps, quand il y a quelque chose d'important au point de vue année liturgique, on prendra avec un peu de liberté tel ou tel sujet qui peut vous toucher plus immédiatement à votre cœur. J'ai envie avec vous de voir les liens de notre vie chrétienne avec le point de vue des sacrements. L'Église, c'est l'Église des sacrements. C'est l'Église de la parole de Dieu. C'est l'Église des sacrements. C'est l'Église qui nous apprend à vivre de la volonté du Père. Vous savez bien les trois nourritures. Et c'est important pour nous de regarder le mystère de l'Église à travers ces trois nourritures, puisque Jésus, bon pasteur, nous conduit au gras pâturage. Et nous devons toujours nous demander si nous sommes des brebis grasses. Alors là, il n'y a pas de pesée, c'est l'Esprit Saint. C'est un excellent examen de conscience. Ça devrait être, je crois, l'examen de conscience habituel. Puisque l'examen de conscience, c'est la pesée, au point de vue spirituel. La pesée des novices du Saint-Esprit. Alors nous demander si nous vivons vraiment du mystère de la parole de Dieu, du mystère de l'Eucharistie. Et avec l'Eucharistie, tous les sacrements. Du mystère de la volonté du Père. Il y a un ordre dans ces trois nourritures. Ces trois nourritures sont affirmées dans Saint Luc et dans Saint Jean, donc là, c'est très net. Il n'y en a pas d'autres, hein, cherchez bien. C'est les nourritures que Dieu nous présente comme des nourritures divines. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Ça, c'est Jésus qui le reprend, c'était déjà dans l'Ancien Testament, et c'est Jésus qui reprend cela face aux démons. Qui veut transformer, qui demande à Jésus de transformer les pierres en pain. Donc face à l'efficacité de notre monde économique, nous devons comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Et Jésus montre ça avec beaucoup de force, puisque de fait, il ne transforme pas les pierres en pain. Il dit ça après son long jeûne. C'est peut-être un moyen, vous voyez, de nous donner de la force pour lutter contre les concupiscences de la nourriture et de la boisson. De nous rappeler ça de temps en temps, puisque c'est Jésus lui-même qui nous donne cet argument pour lutter contre certaines tendances alcoolique, ça n'y se va beaucoup, j'espère, mais on ne sait jamais. On peut avoir des ancêtres. Et alors, ça pousse de temps en temps, ça revient de temps en temps. Contre aussi, contre une espèce de désir de manger tout le temps. J'ai connu un garçon comme ça, qui était merveilleux, qui était fribourgeois, et qui avait été entré à la Val-Sainte. Donc chez les Chartreux, il n'est pas resté à cause de ça. Il a été pris par une boulimie invraisemblable. Il avait envie tout le temps de manger. Évidemment, c'était contraire à l'esprit de la Chartreux. Alors, il est sorti au bout de 6 ans. Hein, vous voyez ça? Je me souviens très bien, parce que le père de Ménas le connaissait aussi très bien, Là, quand il est arrivé, on a dit, on va aller avec vous au cinéma. Tout à fait. Après, on a rien regardé du film. On s'est mis dans le fond. On a fait que parler ensemble sur tout ce qu'il avait connu à la Chartreuse. Il en avait connu quand même des choses excellentes. Et c'est là où il m'a raconté cette histoire excellente de c'était sitôt la guerre. Jouait, qui chantait à l'opéra, qui avait un besoin énorme de chanter. Un besoin énorme. Alors, quand il rentrait de matine, le soir, il ouvrait ses fenêtres et puis alors les airs de l'opéra revenaient. Elle a chanté, vous savez, les pieux novices, on entendait ça et eux, c'était le silence de la nuit qu'ils désiraient. Alors, le père maître, évidemment, il est venu lui dire, écoutez, au moins quand vous chantez, fermez vos fenêtres, je comprends très bien que vous ayez une envie folle de chanter et que ça revienne, il vaut peut-être mieux que ça sorte que de lutter contre, mais au moins fermez vos fenêtres. Alors il a eu cette parole admirable. Mais mon père, vous croyez que je chante pour mes meubles? On voyait l'artiste qui était là. À la Chartreuse, on ne connaît pas ses secrets, n'est-ce pas, qu'il y ait des petites fuites. Je dis ça parce que pour vous montrer, dans tous les noviciats, il y a des choses comme ça, ahurissantes. C'était un bon vieux père maître qui disait, ah oui, il faut s'étonner de rien dans la vie religieuse, parce qu'on a les deux extrêmes. Alors on a des novices qui ont des phénomènes de lévation, et qui de temps en temps montent très haut, et bien d'autres au contraire, c'est les chutes les plus abominables qui soient. Là, on voit très bien, ça, c'est normal, parce qu'on ne vit pas une vie tout à fait normale. Ça fait une nature crie. Mais quand on est en face de certaines tentations, il faut se rappeler cette parole de Jésus. Jésus nous dit ça en face du tentateur. Et les paroles de Jésus en face du tentateur sont des armes contre les tentations. Ça, il ne faut jamais l'oublier, les pères de l'Église l'ont vu comme cela. Jésus a subi toutes les tentations. Toutes les tentations. Les trois représentent toutes les tentations. C'est Saint Luc qui nous dit ça. Après avoir subi toutes les tentations, le démon est parti. Et Jésus nous donne les armes. Est-ce que Jésus aurait pu dialoguer, comme on dit aujourd'hui? Il aurait pu dialoguer avec le démon. Jésus était suffisamment intelligent pour montrer au démon ses sophismes. Ah, ce que tu dis là est faux. Jésus n'a pas discuté. Et c'est Saint Jean Chrysostome qui nous dit, il n'a pas discuté à cause de nous. Parce que nous aurions voulu l'imiter et mettre à discuter en face du démon. Et alors on aurait été perdus. Tandis qu'en face des paroles du démon et la tentation du démon et lui, il a mis une parole divine. Pour que nous aussi, nous prenions la parole divine face à la tentation du démon. On ne doit jamais discuter avec le démon. Si on commence à discuter avec le démon, on est perdu. Alors, on met la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui seule nous permet d'avoir un bouclier, d'avoir une arme. Alors, quand on est tenté par la nourriture, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Alors à ce moment-là, vous entrez chez vous et vous prenez la Bible et vous lisez la Bible. Et alors à ce moment-là, ça vous donne la force de lutter contre la tentation. Et c'est vrai, on doit se poser la question. Est-ce que nous lisons suffisamment la parole de Dieu comme une nourriture? C'est dit dans l'Apocalypse qu'on doit manger le petit livre. C'est une exégèse assez particulière, mais c'est une exégèse qui est toute divine, celle-là. Manger le petit livre, c'est-à-dire assimiler la parole de Dieu. Et considérer que la parole de Dieu est une nourriture substantielle. On ne se nourrit pas d'un philosophe, mais on se nourrit de la parole de Dieu. C'est toute la différence. Et on se nourrit de la parole de Dieu en la recevant dans la foi, et en faisant que cette parole de Dieu est reçue comme une parole substantielle. La nourriture, c'est quelque chose de substantiel. Et donc la parole de Dieu est quelque chose de substantiel dont on se nourrit. On s'en nourrit pour repartir avec plus de force. On doit se nourrir de l'Eucharistie, nous allons y revenir. On doit se nourrir de la volonté du Père. Ça, le point de vue de l'obéissance. L'obéissance est pour nous une nourriture. Et je vous ai déjà dit, il faut bien comprendre que ces trois nourritures sont les trois nourritures pour les vertus théologales. La foi, c'est pour, je veux dire, la parole de Dieu, c'est pour la foi. L'Eucharistie, c'est évidemment le point de vue de la charité. Et aussi l'espérance, comme nous le verrons. Et la volonté du Père, il s'agit d'obéir, c'est la charité et l'espérance. On se fortifie en obéissant. Et quand on n'obéit pas, on n'a plus de force. Très étonnant, ça. On n'a plus de force, on manque de force. Et donc, ces trois nourritures qui nous sont données dans l'Écriture, c'est pour nos vertus théologales, pour que nous soyons des brebis grasses. Donc, c'est un petit examen de conscience qu'on doit faire souvent, puisqu'on cherche à renouveler ses examens de conscience aujourd'hui. Eh bien, c'est une manière très élégante de renouveler son examen de conscience. Est-ce que nous vivons suffisamment de la parole de Dieu, de l'Eucharistie et des sacrements, et de la volonté du Père ? Que nous en vivons vraiment, pleinement. Et je crois que c'est une manière aussi, par rapport à l'œcuménisme, très importante, en comprenant l'ordre de ces trois paroles, de ces trois nourritures. Il y a un ordre, parce que c'est une chose divine, et que toutes les choses divines impliquent un ordre. Un poids et une mesure. Alors on doit essayer de comprendre l'ordre de ces trois nourritures. Eh bien, je crois, lorsqu'on a compris justement comment ces nourritures étaient liées aux vertus théologales, et par les vertus théologales, nous comprenons l'ordre par rapport à la très sainte Trinité. L'espérance nous rattache au Père. C'est parce que l'espérance nous rattache au Père. Et vous voyez, c'est encore le lien avec le point de vue de l'obéissance. Le Père, c'est l'autorité. C'est une autorité paternelle et c'est le Père. Et il y a un lien là, entre l'obéissance et le point de vue de l'espérance. C'est même très curieux de voir ça. On n'y pense pas assez et je crois que c'est très important. De bien voir cela. La parole de Dieu, c'est le Verbe, c'est la lumière, c'est le Fils. Et puis l'Eucharistie, c'est l'Esprit Saint. Il y a un lien très net entre l'Esprit Saint et l'Eucharistie, comme tous les sacrements. Alors vous voyez bien, une fois qu'on a compris cela, on sait l'ordre dans la très sainte Trinité. On voit donc que la volonté du Père, réaliser la volonté du Père, accomplir la volonté du Père, c'est à la fois premier et dernier. L'obéissance, c'est à la fois ce qu'il y a de premier, de plus élémentaire de notre vie. Un chrétien, c'est celui qui obéit au Père et qui aime d'être relié au Père dans la miséricorde du Père. Et en même temps, c'est ultime. C'est pour ça que tout est enveloppé par la volonté du Père. C'est premier et c'est dernier. Parce que c'est toujours là où il faut revenir et achever. La volonté du Père, c'est observer les commandements de Dieu. Or, le premier commandement, l'adoration. Le dernier commandement, la charité fraternelle. Vous voyez, toute notre vie est enveloppée par l'adoration et par la charité fraternelle. Et on peut dire que c'est vraiment cela qui enveloppe toute notre vie chrétienne. C'est le point de vue vraiment de l'adoration. Le Père nous demande d'adorer. Et donc nous obéissons quand nous adorons. Et c'est pour ça que l'obéissance nous fortifie. C'est pour ça que l'adoration nous fortifie. Celui qui n'adore plus n'a plus de force. Parce qu'il n'obéit plus. Il y a une obéissance à Dieu. Et l'obéissance à Dieu, c'est adorer. Et en adorant, en faisant les 7 actes d'adoration par jour, hein, je vous les répète souvent, parce que c'est très important, les 7 actes d'adoration par jour, ça fait qu'on acquiert de la volonté. Ces C'est souvent ce qui nous manque le plus. On a une affectivité assez vive et on a peu de volonté efficace. Quand il s'agit de faire un acte de volonté pour un acte de volonté, oui, se lever le matin quand on est fatigué, par exemple, hein, dire oh, ça ferait du bien de dormir encore un peu. Oui, ça ferait toujours du bien de dormir un peu. L'homme ne se nourrit pas seulement, hein. Alors, vous voyez bien, et donc il a besoin de se fortifier. Et alors à ce moment-là, tout de suite, si vous prenez l'habitude que dès que vous vous réveillez, parce que c'est l'heure, vous vous mettez à adorer, au moins 2 minutes, ça vous donne la force. C'est un truc divin. Qu'est-ce qui est merveilleux? Peut-être que si vous vous levez, oh, c'est bien tôt, je ne suis pas habitué, c'est pas pour moi. Alors à ce moment-là, on se lève de mauvaise humeur et on n'a aucune force. Tandis que si tout de suite on s'habitue à adorer, ça nous donne une très grande force. Parce que Dieu nous fortifie. Il nous fortifie dans l'obéissance et par l'obéissance. Et alors l'adoration, c'est le premier acte. Au point de vue de la volonté du Père, on doit adorer. Et l'ultime commandement, c'est le commandement du Christ, qui est le commandement du Père, aimez-vous les uns les autres. Alors c'est s'aimer mutuellement, c'est l'ultime commandement, c'est l'ultime accomplissement de la volonté du Père. Et l'ultime accomplissement de la volonté du Père, c'est la charité fraternelle. Mais ce n'est pas premier. Je ne crois pas qu'en vous levant et vous donnez la force, vous levez, dire « Ah, c'est la charité fraternelle ». Non, c'est l'adoration. Le soir, en vous endormant, à l'heure, vous pouvez dire, c'est pour la charité fraternelle, je ne veux pas ennuyer mon voisin, et donc je me couche à l'heure où il faut pour ne pas faire trop de bruit. Alors ça, c'est la charité fraternelle, vous voyez, qui est le coucher. Alors c'est de l'adoration à la charité fraternelle. Et durant la journée, c'est l'adoration et la charité fraternelle. L'accomplissement de la volonté du Père. On accomplit la volonté du Père quand on adore et quand on vit de la charité fraternelle. Et ça nous fortifie. Par les commandements, nous sommes conduits à la parole. On nourrit sa foi. Et il faut nourrir sa foi pour avoir une foi contemplative, pour entrer dans l'oraison. Il faut nourrir sa foi. Par là, on acquiert la lumière. Lumière intérieure qui nous est donnée par la foi. Et la parole nous conduit à l'Eucharistie. Il ne faut jamais l'oublier. Il y a un au-delà de la parole qui est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est le silence de Dieu. Et le silence de Dieu nous demande de devenir source d'amour. Ce silence d'amour qui nous lie dans la charité à l'Esprit Saint, fait de nous des sources d'amour dans la charité fraternelle. Vous voyez, il y a un ordre merveilleux entre ces trois nourritures. Il y en a une qui est divisée en deux, vous voyez, qui est au point de départ et au terme. C'est la volonté du Père. Alors ce serait très intéressant de regarder dans cette lumière l'Église orthodoxe, l'Église réformée, pour voir que seule l'Église catholique a gardé l'harmonie parfaite des trois nourritures. Pour moi, c'est cela qui me donne la lumière la plus forte sur le point de vue de l'Église catholique et la plénitude de l'Église catholique. Je crois que c'est très fort pour les jeunes quand ils vous demandent, parce qu'ils demandent constamment pourquoi restez-vous dans l'Église catholique, pourquoi ne vous faites pas orthodoxe, pourquoi ne faites pas musulman, pourquoi ne faites pas et retournez à l'Inde. Venez, on voit très bien aujourd'hui tout se rapproche, la tentation de constante. Alors il faut non pas faire une apologétique, parce que je ne crois que ça ne marche plus, mais il faut, de l'intérieur, montrer ce qu'il y a d'unique dans l'Église catholique. Et vous voyez, ce qu'il y a d'unique dans l'Église catholique, c'est que l'amour de Dieu et l'amour du prochain ne fait qu'un, Et c'est pour ça que le premier commandement et le dernier commandement se rassemblent. C'est ça qui est très étonnant. Le premier amour à l'égard de Dieu, c'est l'adoration. Et l'ultime commandement, c'est la charité fraternelle. Et les deux sont liés dans le même amour. Et l'Église catholique, comparativement aux autres églises, a un ordre magnifique entre ces trois. Si vous regardez l'Église orthodoxe, vous voyez bien, ils ont un sens de la parole de Dieu. Ils ont un sens de l'Eucharistie. Mais l'autorité du Père est moins bien vue. Puisque pour nous, l'autorité du Père, l'autorité de Jésus, elle est quand même vécue admirablement dans l'autorité du Pape. Et par l'autorité du Pape, l'autorité à tous les évêques et aux prêtres. En conformité avec l'autorité du pape. Or, de fait, là, c'est beaucoup moins visible. On reste un peu dans la multiplicité. Et donc, il n'y a pas l'unité. Je me souviens, c'était les premières fois où on avait fait à Fribourg les rencontres entre les étudiants de théologie des facultés théologiques protestantes et des facultés théologiques catholiques. Alors on avait invité Olivier, c'était sur la réforme, qu'est-ce que c'est que les réformes et la réforme. Et alors on a invité Olivier Clément. Je ne le connaissais pas, c'est la première fois que je l'ai entendu. Alors Olivier Clément, c'était net, les catholiques faisaient attention aux protestants et les protestants faisaient attention aux catholiques. Donc on se disait des choses gentilles et qui n'allaient pas très loin parce qu'il fallait faire attention, tandis qu'Olivier Clément, il est arrivé avec toute sa force et sa véhémence. J'étais à côté de Van Halmen de Neuchâtel, il sanglotait comme un gosse quand Olivier Clément parlait, parce qu'Olivier Clément a sorti l'église, c'est l'église de la très sainte Trinité. Tout le monde était d'accord. C'est l'église de la très sainte Trinité. Dans la très sainte Trinité, il y a un ordre. Il y a un premier. Il y a un père. L'église n'est l'église de la très sainte Trinité que s'il y a un père. Visible. Autrement, ce n'est pas l'église de la très sainte Trinité. C'est quelque chose de très très fort de dire ça devant tous. Vous voyez très bien. Le Père. C'est vrai. Le sacerdoce du Christ, il est paternel. Et il demande l'autorité du Pape. Il y a un ordre qui vient du Père. Et c'est ça qui fait comprendre ce que c'est que l'autorité, parce que quand l'autorité est divisée, il n'y a plus d'autorité. Vous savez bien, c'est le propre du démon, c'est d'essayer de diviser les autorités, diviser l'autorité du père et de la mère, diviser l'autorité du prieur et du sous-prieur, l'autorité de... et ainsi de suite, n'est-ce pas ? C'est diviser, essayer de trouver une possibilité de petite divergence, et puis alors on enfonce là-dessous, et puis on se coupe pour faire que les oppositions soient très fortes, pour qu'il n'y ait plus d'autorité. L'autorité demande l'unité. Parce que l'autorité, c'est le principe. Alors, elle demande l'unité. Elle demande d'être une. Il peut y avoir des subalternations, le principe de subsidiarité qui existe. Et le principe de subsidiarité consiste justement à respecter les autorités secondaires dans leur domaine propre. Mais les autorités secondaires sont toutes relatives à une première autorité. Et cette première autorité, pour nous, c'est le Saint-Père. Dans l'Église protestante, on voit très bien la faiblesse encore plus grande. Il n'y a plus l'autorité du Père. Et puis, le mystère de l'Eucharistie n'est plus affirmé avec autant de force. Alors, c'est la parole qui a tout pris. Il n'y a plus la même harmonie, vous voyez. Et c'est vrai, c'est ça qui est important à saisir. C'est l'ordre voulu par Dieu dans ces trois nourritures. Et c'est pour ça que je crois que c'est un examen de conscience très important pour nous, de nous demander si nous vivons selon l'harmonie voulue par la sagesse de Dieu, de ces trois nourritures. Est-ce que toutes nos journées sont enveloppées de l'obéissance? Est-ce que dans nos journées, nous avons soif de la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu nous conduit à l'Eucharistie? Alors, essayons d'entrer, si vous voulez, dans ce que représente pour nous l'Église de la parole, l'Église des sacrements, l'Église de la volonté du Père. Et vous pourriez dire l'Église de la volonté du Père, l'Église de la lumière du Verbe incarné, et l'Église des sacrements d'Esprit Saint. Parce que les sacrements d'Esprit Saint, les sacrements sont très reliés à l'Esprit Saint. Alors comprenons bien, à travers toute l'Écriture, je vous l'ai déjà dit, je le reprends parce que c'est quand même quelque chose sur lequel il faut tout le temps revenir. Toute la révélation se fait par la parole et le geste. Et je vous ai dit, le geste dans l'Église, ce sont les sacrements, qui sont les gestes du Christ. Et alors c'est ici où il faut essayer de réfléchir entre le lien entre la parole et le geste. Vous savez bien que la philosophie de la féminologie, il faut le reconnaître, a remis en lumière le point de vue du geste. Quelqu'un comme Merleau-Ponty a tout un aspect sur le geste. Il faut aller loin en philosophie pour trouver la question du geste, hein. Le geste était laissé à l'art dans la Grèce. C'est curieux, il y a des choses comme ça qu'on laissait à l'art. Remarquez qu'on avait peut-être raison de laisser le geste à l'art, mais peut-être qu'il était bon de l'étudier en philosophie de l'art. Parce que le geste est très symbolique, encore plus que la parole. Le geste nous apprend le symbole. Je crois que radicalement le geste est lié au symbole. La parole aussi est liée au symbole, mais pas de la même manière. Et très facilement, la parole perd sa valeur symbolique pour se cérébraliser un peu, dans la mesure où la logique prend tout. Alors à ce moment-là, la parole n'a plus aucune signification symbolique. C'est l'universel qui a tout pris. Et l'universel, vous savez, c'est très cérébral. Ça ne vous nourrit pas un homme. C'est très cérébral, l'universel. Et donc, la parole qui est uniquement liée, une parole scientifique, qui est uniquement liée à l'universel et à la nécessité par l'universel, est une parole qui perd son sens symbolique. Elle n'a plus sa valeur symbolique. Elle n'est plus liée à l'affectivité. Parce que pour être symbolique, il faut être lié à l'affectivité. Et c'est pour ça que le geste, qui est beaucoup plus proche de l'affectivité, parce que c'est proche du corps, et le geste ne peut pas se séparer du corps. Et parce que le geste ne peut pas se séparer du corps, le geste est beaucoup plus affectif. Et il est par le fait même beaucoup plus symbolique. Tous les gestes sont symboliques. Et toujours une valeur symbolique. On le sait bien. Quand vous dites spontanément adieu à quelqu'un, vous faites un geste pour dire adieu, et tout le monde comprend. Et vous faites un geste d'adieu différent selon la personne qui s'en va. C'est très curieux. Et vous le faites spontanément, ça c'est selon le degré d'affectivité, le degré d'intimité, votre geste prend tout de suite des modalités différentes. Tandis qu'en par la parole, adieu, adieu, c'est très bien. Au revoir, si vous voulez, la laïcisation. Alors, au revoir. Mais le geste exprime beaucoup plus. Beaucoup plus. Le geste exprime quelque chose de beaucoup plus lié à notre cœur. C'est très curieux, ça. Et on a perdu. On a perdu avec la philosophie de Descartes. On a perdu, et va avant, avec les théologiens du 12, du 14e siècle. On a perdu ce sens du geste. Alors on le retrouve aujourd'hui. Et ça, c'est important de le retrouver. C'est très important de retrouver ce que représente cette valeur du geste. Et en philosophie du vivant, il faut étudier le geste. C'est le lien, c'est le lieu de l'incarnation. L'âme présente dans le corps. Est-ce que les animaux font des gestes ? C'est curieux, ça. Poser la question. Ils ont une corporéité et c'est admirable de voir des petits agneaux qui bondissent. Hein. C'est merveilleux de voir ça. Ils bondissent d'une façon très étonnante. Mais je crois que c'est l'instinct. Hein. Je ne crois pas qu'ils veulent à ce moment-là signifier quelque chose. Il y a bien des danses aussi des abeilles et la danse nuptiale des abeilles. Hein. C'est quelque chose de très beau. Je crois que c'est instinctif. Je ne crois pas que c'est symbolique. Quand le symbole naît avec l'intelligence. Quand le symbole naît avec l'intelligence. C'est l'habitation de l'âme spirituelle dans le corps qui fait que le corps devient symbolique. Le corps humain est symbolique, à la différence du corps de l'animal. Il a une valeur symbolique, le corps humain. Et c'est ce qu'on a compris très fort, très vite, avec le masque. Vous voyez ? On a voulu compléter. Le masque est symbolique, ça c'est bien évident. Mais le masque complète le visage. Parce qu'il n'est pas suffisamment symbolique. Alors on lui donne une valeur plus symbolique. Mais le visage, le geste, ont une valeur symbolique. Et ce qu'on dira quand il dira que le corps est le temple de l'Esprit Saint. Et quand vous dites que le corps est le temple de l'Esprit Saint, alors à ce moment-là, vous transposez le point de vue de point de vue purement, transposez le point de vue philosophique au point de vue théologique, mais si ce n'était pas vrai déjà au point de vue humain, on ne pourrait pas le dire. Le corps est le temple de l'âme spirituelle. Et si le corps est le temple de l'âme spirituelle, nécessairement, tout le corps visible et tous les gestes liés au corps ont une valeur symbolique. Et c'est peut-être là, vous voyez, on doit saisir en premier lieu le symbole, à sa racine. Ce n'est pas là où il est le plus parfait. Hein. La valeur symbolique la plus parfaite, c'est la valeur poétique. C'est là où vous avez le symbole numéro un, le plus parfait. Alors, c'est parce que justement, l'aspect de l'esprit domine parfaitement la matière à ce moment-là. C'est dans le langage. Tandis qu'au contraire, l'aspect spirituel ne domine pas entièrement la matière dans le geste ou dans le corps. Mais vous voyez que c'est toujours la même chose, c'est le lien du spirituel et du sensible. Et du visible, c'est la présence de l'invisible dans le visible qui fait le symbole. Et c'est ça la valeur symbolique. La valeur symbolique, c'est la présence de l'invisible dans le visible. Et l'invisible, pour nous, c'est l'esprit. Et présent dans le visible, le corps. Présent dans le geste. Présent dans la figure. Présent dans le regard. Un regard symbolique. Les yeux flamboyants de Jésus. C'est symbolique, ça exprime quelque chose de... Et quand Platon dit que des yeux jaillissent le feu, c'est symbolique. C'est évident qu'il ne jaillit pas le feu. Mais il jaillit quelque chose d'analogue au feu. Et donne donc à toute la physionomie son regard. C'est un vieux père maître qui disait « C'est les regards qu'il faut saisir. » Parce que c'est les regards. Important, c'est là où vous saisissez tout de suite hein, les manières dont les êtres sont unis les uns aux autres par leur regard. Et c'est vrai que le regard a quelque chose de plus fort que tout le reste. C'est là où, si vous voulez, la matière est la plus subtile et alors où l'âme peut se communiquer le mieux. Un regard dit plus qu'un geste, c'est sûr. et dit quelquefois bien plus qu'une parole. C'est quand il y a quelque chose qui se transmet mystérieusement, connaissance symbolique. Vous voyez, la connaissance symbolique peut être silencieuse dans le geste. Connaissance symbolique, une présence de l'invisible dans le visible. C'est pour ça que je crois que c'est très important pour nous, dans notre monde d'aujourd'hui, de se refaire une philosophie du geste, une philosophie de la corporéité, comme le demande le Saint-Père, et de comprendre toute la symbolique du corps au sens très fort. Parce que le corps permet la communication. Le corps permet aussi l'isolement. C'est le temple du Saint-Esprit. Et ça permet aussi de nous mettre à l'abri des autres. Donc de se mettre loin. Mais en même temps, la communication. C'est à partir du geste que nous pouvons comprendre toute la valeur des sacrements. Et comprendre les liens qui existent entre les sacrements et la parole. Alors là, il y a un premier problème qui, je crois, au point de vue théologique, est important pour nous à saisir, si on veut essayer de comprendre un peu, et vivre, parce qu'on fait tout ça, c'est pour avoir une intelligence plus grande des sacrements. Il y a eu un moment, on l'a dit, une désaffection des sacrements. Au moment où on a compris parfaitement la parole de Dieu, où il n'y a pas eu du tout de désaffection par rapport à la parole de Dieu, au point de vue de la parole de Dieu, il y a un progrès énorme qui s'est fait depuis 70 ans, 100 ans, quand on pense. Hein. Moi, je peux dire à mes grands-parents, vous à vos arrière-grands-parents, ou arrière-arrière-grands-parents, enfin, ça fait des générations, eh bien, on considérait que la Bible était à l'index. Dans certains bons milieux catholiques, on ne lisait pas la Bible. Ah non! On lisait ce qui était donné dans les textes de la messe, le petit, mais on ne lisait pas la Bible. Et la Bible, on ne la voyait pas. Chez les protestants, oui, mais pas chez les catholiques. La Bible était considérée comme quelque chose qui... Aujourd'hui, tout le monde, bien pensant, les bons chrétiens lisent la Bible. Je ne sais pas s'ils comprennent grand-chose, mais ils la lisent. C'était le père Devaux qui disait, je me souviens... C'est pas si vieux, enfin, c'était quelques années avant sa mort. J'avais rencontré à Paris, parce que Père Devaux était un vieil ami, Devaux, l'archéologue, tu vois, à Jérusalem. Et le Père Devaux m'a dit, on a été trop vite. C'est-à-dire que c'était l'archéologue qui parlait. Non, on a été trop vite pour propager la parole de Dieu, la Bible. On aurait dû préparer et aider à lire la Bible. Et au fond, on est un peu dépassé par les événements. Et c'est un peu vrai, ça. C'était juste comme vision de la chose. Mais il faut constater, il ne s'agit pas d'aller en retard, il ne s'agit pas de retourner en arrière, il s'agit de comprendre qu'il y a eu un progrès énorme au point de vue du sens de la parole de Dieu. Au moins matériel. Dans l'intensité, dans la compréhension, Dieu seul est juge. Mais je crois qu'il y a eu un progrès énorme fait au point de vue du mystère de la parole de Dieu. Alors, ce progrès, à quelquefois, c'était peut-être sous l'influence protestante. C'était peut-être. C'est évident, quand on fréquente des protestants, on est un peu honteux de voir qu'ils connaissent beaucoup mieux la Bible et l'Ancien Testament que ne connaissaient les catholiques. Je me souviens avoir préparé à la première communion, parce que à Fribourg, je le faisais un peu régulièrement quand je pouvais, et j'aimais de dire que tout bon théologien devrait préparer dans son année un enfant à la première communion. Ça l'aiderait beaucoup à comprendre certaines choses, l'ordre génétique de la foi, n'est-ce pas ? Et de mieux comprendre ce que c'est que le mystère de la foi. Eh bien, je me souviens une chose qui m'avait beaucoup frappé, c'était de préparer des enfants dont le père était protestant et la mère catholique. Le père était très fervent protestant, Et la mère était catholique plus mondaine. Vous voyez, c'est une petite nuance, on voit très bien. Excellente famille espagnole. Mais plus mondaine, c'était visible. Tandis que le père, alors, et la grand-mère protestante était d'une ferveur extraordinaire. C'était celle qui avait fondé Grandchamp. Au point de vue religieux, c'était les religieuses de Grandchamp. C'était une veuve qui avait... Alors, vous voyez qu'elle préparait ses petits-enfants à la première communion. Je l'aimais beaucoup, du reste, on se connaissait très bien, on s'aimait beaucoup. Elle venait régulièrement me demander des conseils pour la manière d'éduquer ces filles religieuses protestantes en disant « Nous n'avons plus de tradition. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour les éduquer à la vie chrétienne, à la vie religieuse ?» Moi, je ne sais pas, vous comprenez, je suis veuve, je n'ai pas fait de noviciat. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était très intéressant. Et quand il y a eu un aumônier, un pasteur protestant, elle est venue me demander, est-ce que l'aumônier a autorité ou n'a pas autorité? Parce que l'aumônier prenait une autorité extraordinaire sur toutes ces femmes consacrées au Seigneur. Et alors il était vraiment l'homme qui dominait. Alors elle venait me demander, dites-moi, parce que comme ça je dirais, dans l'Église catholique, ça se fait comme ça. Et alors je vous demande de faire comme ça. C'était extraordinaire de voir ça. C'était très beau et très intéressant de voir ça. Bien, ces gosses préparaient la première communion par leur grand-mère, connaissaient parfaitement l'Ancien Testament. Jamais vu des gosses qui connaissaient aussi bien l'Ancien Testament. Mais alors, beaucoup moins attirés vers l'Eucharistie. Ordinairement, quand on prépare des gosses à la première communion, ils sont attirés vers l'Eucharistie, d'une attraction très mystérieuse, mais très forte. Ils sont attirés par l'Eucharistie. Et ce n'est pas tellement l'Ancien Testament qui les préoccupe. C'est Jésus et l'Eucharistie. Ça m'avait beaucoup frappé, parce qu'il y avait là un partage. Et on voit très bien, et dès qu'on s'occupe un peu de protestants, on est obligé, pour les aider, de connaître l'Ancien Testament. Il y a eu cette influence. Et alors, par le fait même, l'aspect sacrement tendu à disparaître. Les protestants ont beaucoup moins le sens du sacrement que dans l'Église catholique. Ils ont le sens de la parole de Dieu, et beaucoup moins grand le point du sens du sacrement. C'est très curieux, ça. Et c'est important de saisir pour nous, de redonner un sens au geste du Christ. Alors, pour mieux comprendre cela, l'Église, c'est le plérôme du Christ. L'Église, c'est la complémentarité. L'Église, c'est l'épouse. C'est intéressant de voir le rôle différent de l'Église par rapport à la volonté du Père, par rapport au mystère de la parole, par rapport au mystère des sacrements. Et je crois ça important à bien saisir, parce que peut-être que là, on saisit ce qu'il y a de tout à fait caractéristique à l'Église, en tant qu'épouse, en tant que plérôme du Christ, par rapport à l'autorité. C'est peut-être là où l'alliance est la plus extraordinaire. Quand Jésus dit à Pierre, fait paître mes brebis. Et il le fait peu de temps après le reniement. C'est une audace prodigieuse qui dépasse toute espèce de prudence humaine. Au point de vue de la prudence humaine, je crois que nous aurions tous écarté Pierre. Devant le danger, voilà comment il se conduit. Vous voyez, hein, je suis persuadé, au point de vue religieux, quand un conseil se réunit, n'est-ce pas? Il y aurait eu un reniement à la manière de Pierre. Oh non! Attendons encore un an. Prudence humaine, il la faut, hein, je ne suis pas du tout à la supprimer, parce qu'il y a prudence humaine, mais attendons, voyez bien comment il s'est conduit, devant le ricanement d'une servante. Il est trop sensible à la femme, le ricanement d'une servante. Elle a dit ça, et Pierre s'est mis tout de suite, immédiatement. Pauvre Pierre. Et Jésus, pas après un an de noviciat. Jésus nous dit toujours « Paix mes agneaux » à Pierre, après lui avoir dit « M'aimes-tu ?» lui avoir demandé. Il n'a pas même pas donné une pénitence publique. Non, immédiatement. Il lui communique une autorité, et une autorité qui va très loin, parce que c'est cette alliance avec Pierre où, de fait, l'aspect humain est le plus assumé. L'aspect humain est le plus assumé, il faut le reconnaître. Puisque c'est dans sa prudence et dans sa foi que Pierre doit diriger l'Église. Que Pierre a la responsabilité du Christ dans le gouvernement de l'Église, au point de vue comme pasteur. C'est donc à l'égard de l'autorité l'accomplissement de la volonté du Père, que de fait, l'Église reçoit du Christ une complémentarité extraordinaire. Vous savez ce que dit saint Augustin à propos du sacerdoce? Pour lui, c'est un des aspects les plus étonnants de la divinité de l'Église. C'est que Jésus ait accordé une telle confiance à l'homme par le sacerdoce. Et ça, c'est tout à fait la divinité de l'Église. Si l'Église n'était pas soutenue par l'Esprit Saint, il y a longtemps que ça aurait disparu. Étant donné le pouvoir qu'a le prêtre au point de vue sacerdotal. Étant donné la faiblesse de l'homme, tout homme est menteur. Étant donné la fragilité de l'homme et le pouvoir que Jésus accorde. Donc c'est du côté de l'autorité que Jésus veut que l'Église soit la plus complémentaire. Parce que de fait, il accorde à Pierre ce pouvoir, qui n'est plus un pouvoir instrumental, qui est un pouvoir instrumental d'une certaine manière, mais qui lui demande d'exercer son point de vue de sa prudence. Pour être celui qui est le gardien de ses brebis. Donc il y a une très grande complémentarité là. La complémentarité à l'égard de la parole, elle est importante à voir. Quelle est la complémentarité de l'Église par rapport à la parole? On ne dit jamais parole de l'Église. On dit toujours parole de Dieu. C'est intéressant de se dire ça, vous voyez, parce que certaines perspectives d'exégèse d'aujourd'hui, on dira que les évangiles reflètent tout simplement la foi de communauté des premiers siècles. Et on ne sait pas très bien si c'est la parole de Jésus. Et on dit parole de Dieu. On ne dit pas parole de l'Église. Mais c'est peut-être pour ça, de fait, que toute la tradition qui prévoyait certaines difficultés, puisque la tradition est menée par le Saint-Esprit, n'a jamais dit parole de l'Église. Quand vous lisez l'évangile de Saint Jean, vous ne dites pas parole de l'Église. Vous dites parole du Christ. Jésus dit ça. Parole de Dieu. C'est très curieux qu'à l'égard de la parole, l'Église s'efface. Elle est la bonne terre qui doit garder la parole de Dieu. Elle doit la garder de façon intégrale. Et cependant, l'Église ajoute quelque chose, la théologie. La théologie, c'est l'œuvre de l'Église. C'est l'œuvre de serviteur de l'Église. C'est un très grand service. C'est, je crois, le plus grand des services. C'est le service de la théologie. Les services de la théologie, c'est l'intelligence que Dieu demande à l'Église d'apporter au service de la parole de Dieu. L'intelligence dans ce qu'elle a de plus fort, la sagesse, une sagesse philosophique. Elle doit apporter cette sagesse, parce que seule la sagesse peut être assumée par la foi. Seule la sagesse peut être assumée par la foi. Je ne peux pas assumer directement par la foi ma science biologique. Je ne peux pas assumer directement par la foi la philosophie de la nature, la philosophie artistique. Tout doit passer par la purification de la sagesse. Et la sagesse assume tout. Là, c'est un aspect très important, mais vous voyez que lorsque l'Église apporte ce point de vue de la théologie, la théologie n'est pas la foi. Et donc, c'est bien œuvre d'Église, à côté de la parole de Dieu gardée d'une façon intégrale, dans toute sa pureté. Le propre de l'Église, c'est de garder la parole de Dieu dans toute sa pureté. Et comme épouse, elle doit garder la parole de Dieu. C'est peut-être le rôle propre de l'épouse, ça, c'est de garder les secrets de l'époux et de les garder intégralement, dans toute leur pureté, et montrer la fécondité de ces secrets en voyant que ces secrets peuvent être source de toute une théologie d'une nouvelle sagesse, une nouvelle sagesse acquise. Alors il faut se demander qu'apporte l'Église au niveau des gestes du Christ, au niveau des sacrements. Vous voyez, l'apport de l'Église par rapport à la volonté du Père, donc par rapport à l'autorité. L'apport de l'Église par rapport à la parole de Dieu, la parole de Jésus. Et l'apport de l'Église par rapport aux sacrements, par rapport aux gestes de Dieu. Comme les gestes sont beaucoup plus proches du côté affectif, tandis que la parole est beaucoup plus liée au mystère de l'intelligence. Comme les gestes sont beaucoup plus liés à l'aspect affectif, c'est normal que lorsqu'il s'agit des gestes, l'épouse, l'Église, apporte beaucoup plus. C'est pour ça qu'on dit sacrement du Christ et sacrement de l'Église. C'est très curieux, ça. C'est le seul lieu où on dit sacrement du Christ et sacrement de l'Église. Comme s'il y avait une œuvre commune entre le Christ et l'Église. Pour les sacrements. Et je crois ça très important. À bien saisir. Parce que ça fait comprendre comment l'Église doit, vis-à-vis des sacrements, vis-à-vis des gestes du Christ, avoir un apport beaucoup plus grand que du côté de la parole. Beaucoup plus grand, c'est-à-dire plus intrinsèque. L'Église va apporter toute la liturgie des sacrements. C'est toute la liturgie des sacrements que l'Église apporte. Alors, elle ne change pas les paroles du Christ, mais elle apporte la liturgie. L'Église va déterminer le nombre des sacrements. Je sais bien que l'Église aussi va déterminer les livres canoniques. On va dire là aussi, elle a déterminé les livres canoniques. Le rôle de l'Église là est important pour désigner quels sont les livres qui représentent la révélation officielle et les révélations privées. Mais à l'égard des sacrements, il y a un apport beaucoup plus grand. Nous le verrons à propos de la messe. Hein. L'apport de l'Église au niveau de la messe est très grand et vous voyez que si on confond l'apport de l'Église à l'égard de la parole et l'apport de l'Église à l'égard des gestes, on risque de ne plus comprendre du tout la conduite de l'Esprit-Saint sur l'Église. Parce que c'est la conduite de l'Esprit-Saint sur l'Église. C'est l'Esprit-Saint qui réclame de l'Église d'avoir vis-à-vis des gestes du Christ un apport beaucoup plus, de coopérer plus. de coopérer d'une façon plus intime à l'égard de la parole, avoir un respect beaucoup plus grand pour maintenir une efficacité du côté de la théologie. Et quand il s'agit de l'autorité, de respecter l'autorité interne de l'Esprit Saint et d'avoir une autorité de fort externe. L'autorité de l'Église. Et l'autorité de l'Église ordonnait l'autorité du Saint-Esprit. Vous voyez, quelque chose d'analogue entre le point de vue de l'autorité de fort externe et la théologie. Quelque chose d'analogue entre les deux. Tandis que quand il s'agit des sacrements, je crois qu'on peut dire que l'apport de l'Église est beaucoup plus fort. Alors nous essaierons de comprendre par rapport au sacrement de l'Eucharistie, pour essayer de mieux saisir ce que doit être pour nous la messe. C'est quand même important, on y assiste tous les jours, on la vit tous les jours, on essaie de la vivre le mieux possible. Comment vivre la messe? Comment vivre le mystère de l'Eucharistie? La messe, c'est la scène, c'est l'institution de l'Eucharistie, c'est sûr. Et la messe, en même temps, elle est la messe d'aujourd'hui, de l'Église d'aujourd'hui. Elle n'est pas la messe de l'Église du Moyen-Âge. Tandis que l'évangile de Jean est le même pour saint Thomas et pour nous. Il y a des petits éclairages supplémentaires pour nous, mais c'est le même. C'est le même évangile. La parole de Dieu n'a pas bougé. Les sacrements, dans ce qu'ils ont de tout à fait essentiel, n'ont pas bougé. Les paroles de la consécration. Mais tout le reste, c'est modifié. Et l'Église a un droit de modifier la liturgie des sacrements. Et on a précisé du reste, parce qu'on a pouvoir discuter pour le pouvoir d'ordre, est-ce que c'est l'imposition des mains, est-ce que c'est... On voit très bien, il y a eu du flottement du côté des sacrements. C'est pour ça que l'histoire des sacrements, la pratique des sacrements dans l'Église, est une chose à la fois très importante, mais en même temps très délicate. Parce que c'est forcé, vu de l'extérieur, qu'on ne comprenne pas. Il faut comprendre de l'intérieur cet apport de l'Église à l'égard des gestes du Christ. Tout puissant,